l'Union de la SF.
Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, un petit épisode consacré à une maison d'édition qui fait un sacré bon boulot, à savoir Anacharsis. Anacharsis est nommé d'après un philosophe d'origine barbare venu en Grèce du peuple des Scythes au début du 6e siècle avant Jésus-Christ. Il est parfois rangé parmi les sept sages aux côtés de Thalès ou Pythagore. Il ne reste malheureusement de lui que des traditions indirectes. D'après Hérodote, il aurait été tué par son frère en rentrant chez lui, car il voulait importer chez les Scythes les coutumes des Grecs. Je dois confesser une immense tendresse pour Anacharsis, chez qui je retrouve nombre de textes passionnants. Moi qui aime les sagas scandinaves, par exemple, on y retrouve des sagas qu'on ne retrouve nulle part ailleurs. Traduite par Régis Boyer, ce qui est quand même un gage de qualité. Moi qui aime les textes de chevalerie, on trouve des romans comme Tyran le Blanc, qui est un roman de chevalerie catalan. Moi qui aime les récits mythologiques, j'y retrouve la légende des soleils, qui raconte comment autour de Quetzalcoatl, les dieux aztèques mènent une lutte épuisante pour alimenter les forces toujours déclinantes du soleil et maintenir l'ordre cosmique, je cite. Vous entendez du bruit? Je suis en train de compulser le catalogue. Moi qui aime les textes historiques nimbés de merveilleux, j'y trouve l'histoire merveilleuse du roi Alexandre, maître du monde, qui a été écrit quelque part entre le 11e et le 14e siècle par un scribe byzantin qui a tenté de réaliser une synthèse complète de l'extraordinaire épopée d'Alexandre de Macédoine, devenu dans cette fiction échevelée Cosmocrator, maître du monde et explorateur des régions de l'au-delà. La véritable histoire de Billy the Kid par Pat Garrett, Captif des Tatars de Johannes Schildberger. À 16 ans, il a été fait prisonnier par les Turcs. De ce jour, 1393, jusqu'à ce qu'il retourne au pays en 1427, 30 années durant, il sera esclave-soldat. Ambassade à Byzance, lui prend de Crémone, au milieu du Xe siècle. Les Codices du Merveilleux, 4 récits sur les explorations réelles, littéraires ou imaginaires dans l'Antiquité des mondes du bord du monde, qui alimentèrent toutes les traditions du merveilleux de l'Orient comme de l'Occident. Photios, le fameux érudit byzantin et patriarche de Constantinople, nous y décrit ainsi les licornes sauvages, les mœurs des hommes à tête de chien, les coutumes des pygmées de l'Inde et les paysages aux abords de la Lune. Voyage à Visbek, un petit livre issu d'un manuscrit jamais édité à ce jour, récit halluciné d'un voyage au centre de la Terre où le narrateur, suite à la prise d'une forte dose d'opium, croise des lions à crinière verte, des barrières d'éléphants de pierre, des lapins poussant dans les arbres et des magiciens orientaux qui s'affrontent autour du coquillage de nacre d'une princesse peu soigneuse. En bref, je pourrais essayer encore longtemps et aussi maladroitement de vous convaincre de vous pencher sur le catalogue de cette merveilleuse maison d'édition. Mais je vais laisser parler Charles-Henri Lavielle, un des deux grands ordonnateurs de Anacharsis, qui fera tout ça bien mieux que moi.
L'idée, c'est qu'on était deux étudiants en histoire à Toulouse. On travaillait sur des textes, alors sur la Méditerranée médiévale, Franz Olivier, donc lui travaillait sur Byzance et la notion de barbare entre le 9e et le 12e siècle. Et moi, je travaillais sur Venise et les mercenaires dans les armées vénitiennes du 14e au 15e siècle. Et on travaillait sur des manuscrits, sur des textes. Et en dehors de leur aspect documentaire, on était aussi par ailleurs des grands amateurs de romans, de fiction, soit de Stevenson, enfin voilà, toute cette littérature-là, d'aventure. Et on trouvait qu'il y avait dans les textes qu'on lisait ou dans les documents qu'on trouvait pour nos études, on trouvait qu'il y avait le même aspect épique, le même onirisme. Voilà. Et tout ça nous a voilà, donné l'idée d'éditer ces textes pour eux-mêmes et pas uniquement pour leur aspect documentaire. Donc on a commencé d'abord à proposer à des maisons d'édition plus renommées, enfin renommées, voilà, de ces textes-là. Et puis ça leur a pas plu. Enfin, en tout cas, ils n'ont pas retenu notre projet. Donc du coup, on a décidé de se lancer. Voilà, on est parti comme ça. Donc Anacharsis, ben, c'est un des sept sèches de la Grèce antique qui représente la sagesse barbare. Donc ça nous plaisait bien, nous, la sagesse barbare. Donc on a pris Anacharsis donc, comme nom de la maison d'édition et puis on a commencé. Et puis, ben, au début, on a travaillé effectivement sur les textes qu'on connaissait, qu'on avait rencontrés dans notre cursus universitaire. Et puis, petit à petit, on a rencontré des universitaires qui acceptaient de faire ce pari-là, c'est-à-dire de proposer les textes, de traduire les textes pour eux-mêmes, et donc de ne pas les affubler d'un appareil critique qui les rend inaccessibles au grand public. Juste une petite introduction contextuelle, et puis voilà, un appareil de notes minimum voilà, pour situer, et puis voilà. Rentrer dans le texte, dans l'aspect, voilà, il y a une intemporalité des comportements et des passions, et donc c'est toujours aussi un apprentissage de nous-mêmes, que ce soit une expérience humaine du 9e, du 4e, du 12e, du 13e siècle, qu'elle se passe voilà, en Malaisie, ou qu'elle se passe au Mexique, qu'elle se passe dans les îles Lofoten, ou qu'elle se passe en Catalogne, voilà, c'était un petit peu ça l'idée. Et puis, comme on était aussi des amateurs de littérature et que malgré tout, on était des universitaires, on a décidé d'ouvrir deux collections supplémentaires, une collection de fiction, mais qui se rapproche de la littérature qu'on aime, une espèce de littérature de genre, populaire, etc. Et puis, d'un autre côté, tout ce qui était voilà, lié aux sciences humaines. Et donc, une collection, on a beaucoup travaillé sur l'anthropologie, et notamment une anthropologie... Des ouvrages traduits de pays ou de mouvements de recherche un peu étrangers, que ce soit les États-Unis, que ce soit la Hollande, etc., puisque notamment en anthropologie, où voilà, c'est un petit peu français et ethnocentré. Depuis Lévi-Strauss, on imaginait qu'on avait fait le tour de la question. Or, voilà, il y a quand même beaucoup de gens qui ont continué à travailler, donc c'était un peu faire montre de tout ce travail-là. Donc une anthropologie un peu non structuraliste, réintroduisant la notion de temporalité, la notion de... Voilà, toutes ces notions-là dans ces travaux. Ensuite, on a ouvert à d'autres aspects des sciences humaines, que ce soit l'histoire, donc à travers le Middelgrand, qui est un de nos plus gros succès, et puis maintenant la philologie et un petit peu la littérature. Voilà un petit peu le panorama.
Vaste panorama.
On essaye de... Pour nous, on est une maison d'édition généraliste, hein, véritablement. On a l'ambition de dire que ces textes-là, ils sont grand public. Alors après, il faut effectivement, souvent, la barrière, voilà, l'histoire, le document historique, le texte du 15e, du 12e siècle, ça fait peur. Et nous, ce qu'on veut démontrer, c'est qu'une fois qu'on est plongé dedans et qu'on a franchi cette barrière, on y trouve le même plaisir qu'à lire de la fiction. Puisque de toute façon, un texte du 15e siècle, à partir du moment où il est plus ou moins décontextualisé et qu'on rentre dans une aventure humaine, il peut très bien être une fiction. Parce que les gens qui écrivent, de toute façon, ils écrivent aussi souvent pour des intérêts personnels, des intérêts liés à leur volonté d'ascension sociale. Et du coup, ils sont aussi dans la transformation de la vérité pour valoriser leurs propres actions. Et donc, du coup, on est dans le mensonge. Et si on est dans le mensonge, on est dans la fiction.
Et donc... Quelles sont tes préférences ? Vers où va ta préférence, toi ? Tu es plutôt roman ? Tu es plutôt mythologie ?
Non. Enfin, là, on travaille vraiment à deux. On discute de tous les textes. On discute de tous les projets qui nous sont proposés. Alors après, c'est pas le même travail. C'est-à-dire qu'on a des gens, quand ce sont des essais en anthropologie ou en histoire qui nous proposent quelque chose, on lit les textes et puis on discute de l'opportunité ou pas de les publier. Ça, c'est finalement l'auteur qui propose le texte, donc on n'a pas grand-chose à dire. On est d'accord avec lui, on n'est pas d'accord avec lui. On a envie de publier ce texte, on n'a pas envie de le publier. On peut le travailler sur certains aspects, mais enfin voilà, ça ne nous appartient pas entièrement. Ça nous appartient pas. Les romans, c'est un petit peu la même chose. Ça nous appartient pas. Ça appartient à l'auteur. Donc les textes nous plaisent ou ne nous plaisent pas, on décide de les proposer ou pas. Et après, il y a les autres, il y a la collection Famagouste. Alors Famagouste, elle s'appelle la collection Famagouste, cette collection, parce que Famagouste, c'était une ville qui était la ville au bout de Chypre, qui est tournée vers l'Orient, et qui était une espèce de carrefour invraisemblable de de marchands, de soldats, de mercenaires, etc. Une espèce de bordel en plein milieu de la Méditerranée. Et cette idée nous plaisait. D'ailleurs, la collection Famagouste, c'est un vaste bordel, puisque on y trouve tout. Alors, des textes purement littéraires, des mercenaires, des textes des journaux de mercenaires du 15e, du 14e siècle, des textes de naufragés, des textes plus littéraires, comme l'histoire merveilleuse du roi Alexandre, maître du monde, qui est la version byzantine de l'histoire d'Alexandre le Grand, la Crite, voilà, qui sont des textes littéraires, et puis des témoignages comme Tueur de Bison, enfin, on y trouve vraiment tout un tas de choses, des textes fondateurs de civilisation, la chronique de Nestor, la Crite, enfin. Donc ces textes-là, par contre, on les découvre et puis après, il faut leur donner une orientation. Donc là, on en parle, on discute de comment on veut le présenter, qui va le présenter, pourquoi il est à nos yeux nécessaire de le refaire émerger, qu'est-ce qu'il dit. Voilà. Et là, bon, c'est une autre forme de travail. Sur le coup, on est effectivement dénicheur de textes et on travaille sur la ligne éditoriale. On travaille autrement que sur les textes qui sont proposés par des auteurs. Bien sûr. Donc c'est pas tout à fait la même chose. Et puis après, dans ces textes de la Famagouste aussi, maintenant, on travaille aussi avec des universitaires ou avec des gens qui nous proposent le texte. Et là, on discute avec eux de l'orientation qu'on veut donner au texte. Même si, au bout du compte, c'est le texte qui doit parler par lui-même, puisque l'appareil critique vraiment est très limité. C'est juste une orientation, ou des idées de lecture, ou des idées de décryptage du texte qu'on donne à lire, mais pas... C'est quand même le texte qui parle par lui-même.
Voilà. Je ne vais pas me relancer dans le descriptif de leur catalogue. Je vous entends d'ici soupirer de soulagement. Je vous invite à découvrir leurs ouvrages. Bon, il suffit d'aller sur Internet, de taper Anacharsis Édition et vous avez possibilité de commander leurs livres. Ils n'ont pas encore de site internet, mais ça ne saurait tarder, m'a dit Charles-Henri. Pour ceux qui ont la chance de se rendre à Épinal fin mai, ils seront présents aux Imaginales. Vous pourrez ainsi juger sur pièce si je vous ai menti. Et si je vous ai menti, vous pourrez m'envoyer un mail à lyonnes@gmail.com. Et je profite de l'occasion pour vous informer d'une grande nouveauté, une évolution des Lyonnes de l'ASF. Nous nous sommes structurés en association Loi 1901 et nous avons désormais un site internet sur lequel vous avez les liens directs vers les podcasts à l'adresse www.leslyonnesdelasf.com. Les Lyonnes de l'ASF, tout attaché. Et avec un Y, ne l'oubliez pas. Sinon, vous ne trouverez pas et on sera malheureuse. Voilà, n'hésitez pas à nous écrire pour nous faire part de vos suggestions, de vos remarques. À partir de la prochaine fois, on va avoir une nouvelle rubrique qui sera les coups de cœur des Lyonnes. Je vous laisse encore tranquille avec ça pour cette fois-ci. Voilà. Je vous dis au revoir. Le prochain rendez-vous des Lyonnes est au Miroir du Futur, un festival qui se déroulera à Civray dans le 86, les 7 et 8 mai. Il y aura Heyerdahl, Jean-Claude Duniac, Sarah Doak, Sylvie Denis, Roland Wagner et bien d'autres. Oh, je sens que ça va pas être triste. À bientôt donc. Je vous raconterai tout ça.